Bonjour Cécile Allégra.
Bonjour.
Les séances de torture se déroulent d'une façon très précise, à savoir qu'elles se déroulent avec un téléphone portable allumé.
Absolument.
Est-ce que vous pouvez nous expliquer ?
Effectivement, la méthode est particulière. On appelle donc un proche sur un téléphone, sur un portable, et au moment où le proche décroche, la torture commence en direct au téléphone. Il faut bien comprendre que les chefs bédouins ne prennent que rarement part à ces séances de torture, qui sont en général pratiquées par des petites mains, qui sont payées aux migrants et qui donc torturent d'autant plus violemment qu'ils ont besoin qu'il y ait un turnover pour gagner leur vie. Voilà. Donc
ils ont besoin que la famille paye plus rapidement ensuite libérer le prisonnier et en prendre un autre.
Et en prendre un autre, absolument. Ensuite, plus on avance dans les mois de détention, plus les tortionnaires deviennent nerveux, ont envie de récupérer leur argent, et s'ils ne voient pas l'argent venir, la torture s'intensifie. Il faut bien comprendre que c'est des gens qui sont, ils sont pas torturés une fois par jour, ils sont torturés toutes les heures quand ils sont en détention, toutes les heures, nuit et jour. Et donc c'est des gens qui deviennent une sorte de bouillie de chair humaine. Ils sont complètement à vif à force d'être torturés. Et quand ils n'arrivent pas à payer rapidement, les tortionnaires basculent dans une forme de folie. Donc c'est là que ont lieu les pires atrocités, hein, dont très souvent les détenus ne se remettent pas. C'est-à-dire qu'ils meurent des suites de leurs blessures, bien sûr.
Comment expliquer une telle cruauté ?
C'est la question centrale de notre enquête. Pourquoi est-ce qu'ils les torturent à ce point ? Il y a deux éléments de réponse à cette question. La première, elle tient à la spécificité des personnes qui dirigent ces camps de torture. C'est des bédouins du Sinaï qui appartiennent à la tribu des Sawarka. C'est des personnes qui ont été très longtemps persécutées après la rétrocession du Sinaï à l'Égypte, parce que c'est des personnes qui sont bloquées dans un no man's land, qui font du trafic, qui dérangent l'Égypte et qui dérangent Israël. Donc, les descentes armées, les séquestrations d'hommes, les viols de femmes... C'est des choses qu'ils connaissent. Et nous, quand on a été rencontrés avec Delphine, les tortionnaires, hein, puisqu'on en a rencontré, ils nous ont dit « Mais écoutez, on leur met une balle dans le pied, mais ensuite on les soigne. On n'est pas des tortionnaires. » Ce qui vous donne une idée, en fait, du degré de violence qu'eux-mêmes sont capables d'endurer. Deuxième élément, il faut que les détenus payent très rapidement. Parce que sinon, on ne peut pas en faire venir d'autres. Il faut retrouver la mise. Un tortionnaire nous disait, moi, tout ce que je veux, c'est retrouver mon argent. J'ai payé pour les faire venir. Je veux faire ma plus-value. Et qu'ensuite, ils s'en vont, qu'ils s'en aillent. Moi, je leur veux rien de mal. Je veux juste retrouver mon argent.
Cécile Allégra, avec Delphine Delogé, vous avez rencontré donc des trafiquants, notamment un trafiquant repenti. Dans le documentaire, pourquoi dit-il que les Érythréens valent de l'or ?
Les Érythréens valent de l'or pour les Bédouins du Sinaï, parce qu'ils savent parfaitement que c'est la principale population en fuite dans la Corne de l'Afrique. Vous avez des Soudanais qui sont en mouvement, des Éthiopiens également, des Somaliens, mais les Érythréens quittent massivement le pays. Il y en a 3 à 4 000 par mois qui quittent l'Érythrée parce qu'ils fuient la dictature. Hein. Isaias Afewerki est un dictateur complètement paranoïaque, alcoolique, qui enferme les gens dans un service militaire à vie. Les Érythréens savent ce qui les attend quand ils partent au service militaire, donc ils fuient. Et les Bédouins savent que les Érythréens fuient massivement. Et ils savent aussi qu'il y a une forte diaspora à l'étranger, donc ils savent qu'ils peuvent récupérer de l'argent. Et ça les a même surpris, d'ailleurs, le tortionnaire nous le disait, les tortionnaires qu'on a rencontrés nous le disaient. On ne s'imaginait pas qu'on pouvait en tirer autant. Quelque part.
Comment font les familles pour récolter de l'argent ?
C'est une catastrophe parce que les Érythréens sont de l'étranger, sont très solidaires entre eux. Ils essayent de ramasser de l'argent puisque les rançons sont exorbitantes. On parle de 30, 40, parfois 50 000 dollars en Érythrée
par prisonnier,
bien sûr. Et en Érythrée, personne n'a cette somme sauf des proches du régime, on va dire. Ce qui fait qu'en fait, toute la communauté érythréenne est mobilisée pour récolter cette somme. Simplement, ça fait tellement longtemps que cette situation dure. Les sommes récoltées deviennent de plus en plus importantes, les rançons deviennent de plus en plus salées, ce qui fait que ça déstructure toute une communauté qui vit à l'étranger. Les gens se ruinent sur plusieurs générations, ce qui est un fardeau terrible à porter pour les rescapés du Sinaï qui vivent avec la culpabilité d'avoir détruit financièrement leur famille, mais aussi les proches de leur famille, mais aussi les proches des proches de leur famille.
Où va l'argent qui est ainsi extorqué à ces Érythréens?
C'est une très bonne question et c'est une grande question. Et pour l'instant, on n'a que des hypothèses de travail. D'abord, il est utilisé à des fins d'enrichissement personnel par les tortionnaires. Et ensuite, tout le reste sont des hypothèses. Certains experts de la région mettent en évidence un lien direct avec les cellules djihadistes qui opèrent dans le Sinaï. Enfin, la dernière hypothèse, la plus importante, qui a été soulevée depuis un an par l'ONU, c'est que l'état-major du dictateur Isaias Afewerki ait des parts directes dans le trafic d'Érythréens, ce qui serait quelque chose d'historique, puisque ce serait donc, si cette hypothèse était vérifiée, et c'est ce à quoi s'emploient les enquêteurs de l'ONU, les enquêteurs de l'Union européenne dans les années à venir, ça serait le premier cas de torture hors les murs, organisé par un dictateur lui-même. Donc une superbe trouvaille, puisque ça lui permettrait de torturer les fuyards, mais pas sur son propre sol, donc en évitant les observateurs internationaux. Et ça lui permettrait par la même occasion de faire revenir de l'argent à l'intérieur des frontières de l'Érythrée. Et c'est cette hypothèse-là qui, en ce moment, fait l'objet de toutes les attentions de la communauté internationale.
Donc il sous-traiterait la torture à l'étranger, et c'est son chef d'état-major qui serait à l'origine de ce trafic, c'est-à-dire qu'il laisserait volontairement passer les Érythréens, il les laisserait volontairement fuir finalement leur pays.
Il y a pire que ça, c'est-à-dire que dans la dernière année, il y a eu des cas avérés où la police et l'armée sont allés chercher des Érythréens et les ont eux-mêmes déportés, remis entre les mains des trafiquants d'êtres humains. C'est une mécanique qui commence à aller très loin.
Comment expliquer le développement de ce trafic dans le Sinaï, notamment? Il y a en particulier le fait que le Sinaï, donc on le rappelle, ce désert entre l'Égypte et Israël, est une zone totalement abandonnée. D'ailleurs, le trafiquant le dit.
Le tortionnaire nous a dit, les tortionnaires nous ont dit, les deux, vous comprenez, ici c'est un no man's land. On a fait de nous une zone tampon et puis on nous a dit, voilà, on vous donne une maison, on vous donne un bout de désert et puis vous vous débrouillez, vous vivez là. Et il nous dit, nous, comment voulez qu'on survive? On fait ce qu'on peut, donc on fait du trafic, sous-entendu, donc du trafic d'êtres humains, comme on pourrait faire du trafic de lait concentré ou du trafic d'armes ou de drogue. On fait ce type de trafic parce qu'on n'a pas le choix.
Et que fait le gouvernement égyptien dans cette affaire?
Absolument rien. Le gouvernement égyptien a une position très fautive dans cette histoire, puisque les trafiquants franchissent la frontière égyptienne comme ils veulent, et en versant moult bakchich. En plus de ça, si vous voulez, donc dans le Sinaï, l'État égyptien n'a jamais mené aucune opération de recherche de déportés. Et pour finir, une fois que les rescapés du Sinaï sont relâchés et qu'ils arrivent, pour certains par miracle, jusqu'au Caire. Au Caire, ils ont une vie extrêmement dure. Personne ne vient à leur secours. Il y a un fort racisme envers les Érythréens. Et voilà.
On pense évidemment à une accusation de crime contre l'humanité. Derrière tout ce que vous racontez, est-ce que la Cour pénale internationale pourrait se saisir de ce problème?
Bien sûr, il pourrait se saisir de ce problème. Et en Europe, il y a des militants qui y travaillent. C'est principalement des militants érythréens. Donc il y a Fessa Al-Ganesh, qui est une militante italienne, qui se rend sur place en Égypte, au Soudan, en Éthiopie, pour recueillir des preuves, qui reconstitue un petit peu tous les maillons de ce terrible trafic. Il y a Meron Estefanos, qui depuis la Suède collecte les témoignages, travaille pour l'Union européenne, essaye de constituer un corpus de preuves pour condamner les trafiquants. Mais c'est vrai qu'ils ne sont pas nombreux. Ils ne sont pas nombreux parce qu'on est sur une problématique qui est transnationale. Vous avez plusieurs pays impliqués dans le trafic, avec des populations très différentes, avec peut-être un pays d'origine lui-même impliqué. Donc c'est une enquête extrêmement longue. Et pour arriver jusqu'à La Haye, il manque encore quelques étapes, mais on en est proche.
Ce trafic se développe, commence à se développer dans d'autres pays de la région. Dans quelles proportions?
Dans des proportions absolument tragiques. Vous avez des dizaines de maisons de torture en Libye déjà. Il y en a déjà plusieurs dizaines également au Soudan. Le Yémen commence à s'y mettre. Partout où vous avez des migrants de la Corne de l'Afrique qui affluent, les gens ont compris. Vous les mettez, vous les parquez, vous les séquestrez, vous les torturez terriblement. Et ils finissent par cracher un peu d'argent. Donc forcément, ça fait des petits. Et je pense qu'il faut pas qu'on oublie que si ce système de camp de torture se propage à tout le Maghreb, on va avoir le Maghreb transformé en antichambre de la torture avant le passage des migrants par la Méditerranée. Et donc nous, Européens, on a une responsabilité dans la manière dont on traite ces gens une fois qu'ils arrivent sur notre territoire. Parce que ce qu'ils vivent, ce n'est plus simplement une migration économique, mais c'est un drame épouvantable.
Merci Cécile Allégra.
Merci.